Pontac Sport avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières gaz et fuel, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminées. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac 06 70 11 66 86.
Le sport en Béarn et Bigorre, c'est sur Pontac Radio.
Allez, Julien Jeannot, votre attaque, oui.
Oui.
Eh oui, Julien Jeannot.
Invité, actu sportive, jeux et chroniques engagées. Entrez sur le terrain de Pontac Sport le lundi à 20h30 sur Pontac Radio.
Attention, ça va y aller, ça va y aller. Et c'est un essai. Et c'est un essai du numéro 20 Ziegler.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pontac Sport, l'émission sur Pontac Radio. Vous le savez, un lundi sur deux, on parle de sport avec notre équipe, les chroniqueurs et toujours un acteur local du sport autour de Pontac. Comme les saisons sportives arrivent à leur terme, on a eu envie ce soir de vous proposer un thème un petit peu particulier. On va parler champion. Qu'est-ce que cela représente pour des sportifs, pour des dirigeants ou pour des supporters de devenir champion, quel que soit le niveau? Et pour choisir un invité local cette semaine en rapport avec ce thème, on n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin, puisque le club athlétique Pontacais a remporté le bouclier de champion régional de rugby et que c'est Laurent Toujas, le président du Cap Rugby, qui va nous accompagner ce soir. Bonsoir Laurent et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir à tout le monde. Merci à vous.
Laurent, qui est un bon président de club de rugby, n'arrête pas de jeter un œil sur sa droite en se disant que son voisin ferait un bon deuxième ou troisième ligne au Cap la saison prochaine. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Il va falloir qu'il se remette en forme alors son voisin avant quand même. S'il est un peu carbo là.
Alors Pierre, on attend impatiemment ta chronique qui va nous prouver qu'un titre de champion régional, c'est plus qu'un trophée, c'est un symbole. Bonsoir Ludo.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Ludo, il est de retour, il était absent lors de la dernière émission, mais c'était pour la bonne cause, et les auditeurs comprendront avec ta chronique qui, là aussi, va parler de champion. Et c'est toi aussi qui nous présentera le quiz du lundi en fin d'émission.
Un quiz fait taillé pour les champions.
Ah, bon. Et manque de bol, je participe pas.
Pose-toi les bonnes questions.
Ça donnera une chance de gagner aux collègues.
Alors, comme tu étais absent la dernière fois, Ludo, c'est Bastien qui t'avait brillamment remplacé il y a deux semaines. Et du coup, bah, il est de retour parmi nous ce soir. Bonsoir Bastien.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Toi, tu reviendras sur quelques beaux titres de champion obtenus par nos clubs locaux. Et je sens que tu vas nous rappeler de bons souvenirs à nous, mais aussi à nos auditeurs.
Attention à la nostalgie.
Ah, carrément. Le boss... toujours fidèle au poste, celui sans qui rien ne serait possible. Bonsoir Julien.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
On rappelle que dans cette émission, tu es le porte-parole officiel de nos auditeurs. Alors, on attend vos réactions, vos questions, tout au long de l'émission, via les réseaux sociaux de Pontac Radio. Julien, reste à l'affût. On attend aussi vos réponses à notre question débat du soir. Est-ce que tu peux la rappeler, Julien, s'il te plaît?
Oui, alors déjà, je reste à l'affût et non pas affûté. Je tiens quand même à le préciser en cette...
C'est pour ça que ma langue n'avait pas fourché.
Exactement. La question débat à laquelle vous pouvez participer, vous, ce soir à la maison, c'est pour vous l'été. C'est plutôt autant de sport que durant le reste de l'année, ou alors c'est relâche, barbecue et feria. On a un petit peu notre avis ici autour de la table, mais vous, quel est le vôtre? On attend vos réactions et votre vote sur le sondage en story sur le Instagram de Pontac Radio, Nico.
Exactement, mais pour débuter ce nouveau numéro de Pontac pour l'émission, on va tout de suite se pencher sur les résultats sportifs de nos équipes locales.
Pontac Sport, les résultats du week-end.
Alors, ça sent la fin de saison avec les résultats, et Pierre, je crois que tu n'en as qu'un seul à nous donner en ce qui concerne les amateurs.
Ouais,
et on va parler ballon rond.
Tout à fait, parce que les équipes de Aquitaine, Pornon et de Berne sont en vacances, donc j'ai qu'un seul résultat à vous donner en cette quinzaine, puisque le Tarbes Pyrénées Football a obtenu ce samedi sa montée en National 3 au terme d'un match très tendu en battant l'équipe de l'Atlas Payade. Du coup, les Tarbes accèdent à l'échelon supérieur, dont l'équipe de Pontac Sport tient à féliciter toute l'équipe après leur magnifique saison qu'ils ont maîtrisée de bout en bout.
Et on va aussi parler ballon rond pour le FC Lourdes qui a remporté la Coupe de Bigorre hier. Et je vais faire un petit clin d'œil particulier à l'attaquant Romain Séguré, l'attaquant du FC Lourdes, donc qui a mis un terme hier à sa carrière. sur un beau titre. Romain, c'est quelqu'un que j'avais croisé à l'époque où il jouait au Pau FC, et c'est l'une des personnes les plus simples et les plus sympathiques que j'ai pu croiser dans ce milieu, donc j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil ce soir. Du côté des résultats des pros, là aussi c'était calme, puisque tout le monde était déjà presque en vacances sur cette quinzaine. Seule la section paloise était sur le pont, et les hommes de Sébastien Piccherani ont mis un terme à leur saison avec un beau succès 32-18 face à La Rochelle. Depuis 2018, les Rochelais étaient toujours venus s'imposer à Pau, mais cette fois, la section a pris le dessus pour signer une quatrième victoire consécutive en top 14. De quoi ravir l'entraîneur palois au micro de Guillaume Gracia pour Pontac Radio.
Une immense fierté, une immense satisfaction, la sensation d'un job accompli, la sensation d'un job bien fait aujourd'hui. Le match a été dur.
Une victoire importante aussi parce qu'elle permet à la section de terminer 8e de top 14 cette saison et de se qualifier pour la plus belle des Coupes d'Europe, la Champions Cup. Et selon Sébastien Piccheroni, cela devrait changer pas mal de choses.
Elle va changer déjà, elle va nous exposer à une autre compétition. On va apprendre beaucoup de choses de cette compétition. Nos jeunes joueurs vont grandir, vont prendre encore beaucoup plus d'expérience. Et on va montrer à tout le monde qu'on avance. Parce qu'on va se comparer aux 4 matchs de plus à des équipes de super calibre. Donc ça fait 30 matchs de haut niveau à minima. Et c'est le super moment de les jouer, je pense.
Allez, on revient avec un peu de ballon rond, mais rassure-toi Pierre, c'est pas pour s'attarder sur la magnifique victoire du PSG en Ligue des Champions. Je vais d'abord rappeler que les Bleus de Didier Deschamps, après s'être inclinés 5-4 face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, ont battu l'Allemagne 2-0 hier pour s'adjuger la troisième place. C'est le Portugal qui a gagné en finale contre les Espagnols. Et puis vous vous souvenez qu'on avait reçu dans cette émission Hugo da Silveira, le sélectionneur de l'équipe de France de foot à 6 avant son départ à la Coupe du Monde en novembre dernier. Et bien cette semaine, les Bleus d'Hugo disputaient l'Euro en Moldavie et ils sont passés tout près du titre puisqu'ils se sont malheureusement inclinés 4-2 hier en finale face à la Pologne. Un petit mot aussi de tennis pour dire que l'Espagnol Carlos Alcaraz s'est imposé hier face au numéro 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, au bout d'une finale historique de plus de 5h30 avec un niveau de jeu incroyable. Je ne sais pas les amis si vous l'avez regardé, mais c'était vraiment un grand, grand moment de sport. Et puis pour terminer cette rubrique, on va se tourner vers notre ancien chroniqueur David qui est venu assister à l'émission ce soir en public. Bonsoir David.
Bonsoir à tous, l'équipe et merci beaucoup.
Alors pour expliquer à nos auditeurs, tu avais pris un petit peu de recul avec notre émission pour prendre en main l'équipe 1 du Hasson Sport Handball.
Exactement, c'est ça.
Qui était en National 2. Qui était monté l'année dernière en National 2, c'est ça?
Non, qui était toujours en National 2.
Comment s'est passée cette première saison à la tête de l'équipe Fagnon du club?
La première saison s'est passée difficilement, même si elle se finit en beauté, avec un maintien acquis lors de la dernière journée et sur les 10 dernières secondes de la saison, en fait. Donc, tout s'est joué là. Ah ouais. On devait gagner ou faire match nul chez les voisins d'Irisari, qui eux devaient gagner pour ne pas descendre. Donc, ça s'est joué entre nous deux. On était mené de 4 buts à la mi-temps, on était mené de 7 buts, on a été mené 19-13 et à 10 minutes de la fin, et finalement on est venu faire match nul 20-20 avec un dernier ballon pour Irisari sur une action un peu improbable, mais la saison se finit bien, éprouvante, mais qui se finit
on a fêté le maintien,
je pense que si on était monté, on l'aurait peut-être pas fêté autant.
Voilà, donc c'est une émission des champions, mais des fois, quand on a le maintien, c'est comme si on était champion.
Ouais, tout à fait, ouais.
Bon, en tout cas, on a suivi ça de près, tous les lundis, à chaque émission, on donnait tes résultats, donc on avait suivi ça de près. Merci beaucoup,
merci à vous,
David. Avant de retrouver Ludo, qui va nous parler un champion, périple, Cardiff, gobelet, plastique, non peut-être. Je sens que tu vas nous parler de ça. Pierre.
Ah, Ludo, on n'a pas l'air convaincu.
On verra, mais je pense qu'il va aborder ce sujet à un moment donné dans sa chronique. Pierre, tu vas nous expliquer que champion régional, c'est plus qu'un trophée, un symbole.
Pontac Radio, le sport local est à l'honneur.
C'était un dimanche, pas un dimanche ordinaire, non. Un de ces dimanches qu'on garde dans la peau toute une vie. Dans les crampons, dans le cœur, dans la gorge aussi. Un dimanche de finale. Le genre de dimanche où tout le village retient son souffle, où les anciens sortent leurs écharpes d'époque, où les gamins rêvent de trophées, et où les joueurs, eux, vont chercher leur place dans l'histoire. Aujourd'hui, je vous parle d'un titre. Pas un titre de top 14 ou de Coupe d'Europe, non. Je vous parle d'un titre régional. Celui qu'on décroche après des mois de boue, de froid, d'entraînement sous la pluie et de troisième mi-temps en famille. Parce qu'il faut bien le dire, dans le rugby amateur, dans nos régions, ce titre-là, c'est un petit peu le graal des joueurs amateurs. La saison commence souvent dans l'anonymat. Un match en septembre, un vestiaire qui sent le camphre, et les espoirs de reprise, des recrues, des anciens, un coach qui parle de groupe, de projet, de sérieux mais plaisir. Et puis la saison file, les dimanches se succèdent, on joue à domicile, devant les copains, on part en bus, à l'aube, vers des terrains plus ou moins plats, on gagne, on perd, on serre les dents. Mais petit à petit on devient une équipe. Pas juste un groupe, des gars en short, une vraie équipe. Une mêlée qui pousse ensemble, une ligne qui se déplace en silence, une solidarité qui dépasse le simple sport. Et quand les phases finales arrivent, ah là, c'est un autre monde. J'ai eu la chance de demander à un ami, fraîchement titré avec son club de rugby de l'Aloubert, ce que lui ressentait au moment de jouer les phases finales.
Franchement, c'est un sentiment incroyable. C'est les moments qu'on attend durant toute la saison. On cravache pendant 6 mois pour y arriver. Il y a beaucoup de joueurs, comme les anciens, qui jouent avec nous, qui disent qu'on n'en joue pas tous les ans. Quoi.
Et c'est justement en ça que les phases finales de n'importe quel sport sont différentes. On ne joue pas celle-ci chaque année. Plus les tours passent, plus les matchs avancent, puis arrive le jour de la finale.
C'est un match différent, on sent qu'il y a un peu plus de pression, même si ça reste des niveaux de série, on sent qu'il y a un peu plus de pression autour de ce match dans la semaine, auprès des dirigeants.
Le stade est plein à craquer, les clubs voisins viennent voir, les enfants courent sur la pelouse et attendent le match. Les familles ont sorti le pique-nique, les anciens leur béret. Les dirigeants, comme évoqué dans l'audio, n'ont jamais été aussi tendus tout le reste de la saison. Dans les vestiaires, le silence est religieux, le capitaine parle, le coach murmure ou hurle selon le style. Il y a des regards entre coéquipiers qui veulent tout dire. Aujourd'hui, on y va, pour nous, pour le club, pour ceux qui ne veulent plus jouer, pour ceux qui nous ont quittés. Sur le terrain, c'est un combat, un mélange de stratégie et d'instinct, de puissance et de finesse. Des plaquages rugueux, des passes magiques et cette fameuse dernière mêlée à 5 mètres de l'embute que tout le monde redoute ou attend. Vous menez, il reste une minute. Les adversaires poussent, vous êtes dans vos 22, vos jambes brûlent, votre souffle est court, mais vous tenez. Vous tenez pour ce foutu bouclier de bois qui attend au bord du terrain. Et puis, le coup de sifflet final. Les bras levés, les larmes, les cris, les embrassades. Le président qui court sur la pelouse comme un môme, le coach qui craque, les remplaçants qui se jettent sur le terrain, vous l'avez fait, vous êtes champion.
C'est de la joie bien sûr, de la libération et aussi de la fierté par rapport aux 3-4 dernières années qu'on a passées ensemble au club.
Un titre de champion régional, ce n'est pas seulement une ligne dans un palmarès, c'est le reflet d'une identité locale, d'un rugby de clocher, d'un amour du jeu qui transcende le résultat. C'est un boulanger pilier gauche, un prof de techno demi de mêlée, un étudiant troisième ligne, un vétérinaire qui joue à 35 ans parce qu'il ne peut pas s'en passer. C'est tout ce qui fait la beauté de ce rugby des campagnes, des banlieues et des vallées. C'est un village qui fête ses gars, une mairie qui vous offre l'apéro, une banderole accrochée à les grilles de l'école.
C'était indescriptible le soutien des supporters déjà, rien qu'à la descente du bus. Après, pendant tout le match, on n'a entendu qu'eux. Et la communion, c'était incroyable, la communion avec eux à la fin du match.
En plus de tout cela, il y a les photos, le banquet, la médaille qui traîne au fond d'un tiroir, mais qu'on ressort pour raconter. Il y a surtout ce souvenir, j'étais là, sur ce terrain, ce jour-là, avec eux. On se rappelle des douleurs, des entorses, des bières trop tièdes, du coach qui gueulait trop fort, mais surtout de cette communion. Et chaque année, quand on voit notre équipe soulever ce bouclier, on y repense. Avec un sourire, une nostalgie. Et parfois même un petit frisson. Alors oui, ce n'est qu'un titre régional. Mais pour ceux qui n'ont gagné, il n'y a pas de petit titre. Il y a des souvenirs de vie, il y a des frères d'armes, il y a une passion qui ne s'éteint jamais. Et c'est bien ça, le rugby, une histoire d'hommes, de sueur, de respect, de fierté. Un sport où gagner un titre, c'est bien plus qu'un score. C'est marqué, sa vie à jamais. Du coup, j'avais une question pour toi, Laurent. On a écouté le ressenti d'un joueur. Quel est le ressenti d'un président au coup de sifflet final ?
Est-ce que, comme l'a dit Pierre, t'as couru comme un fou au coup de sifflet final, comme un gamin ?
Ouais, c'est... Déjà, j'ai écouté tout ton texte, Pierre, et franchement... Il n'y a aucun match là ce soir, mais c'est les ressentis, c'est des frissons, c'est plein d'images quoi. Et moi, mon ressenti quand on a joué cette finale, effectivement, déjà on n'est pas bien depuis beaucoup de semaines avant. Et on suit le score, les mecs qui jouent, les mecs, tu les adores tous, enfin, c'est plein d'émotions quoi. Et je me souviens quand ça a sifflé la fin du match, j'étais avec Jean-Charles. Avec Jean-Charles Dupont, que Julien, tu dois connaître.
Qui était co-président jusqu'à il n'y a pas longtemps au club.
Ouais, Jean-Charles, il est vice-président cette année.
Il est vice-président aujourd'hui, ouais.
Avec Pascal Albès, là, et on était ensemble. Bah, c'était... c'est ça, en fait. Ça sifflait, on a couru tous les deux. On se tenait dans les bras, on tournait comme ça.
C'est une euphorie.
C'est incroyable, ouais, franchement, c'est... Ouais, c'était incroyable, quoi, parce que c'est tellement prenant. Et ça y est, quoi, les mecs, ils avaient leur titre.
Ça faisait un petit moment que le Cap n'avait pas remporté de titre.
Le Cap avait remporté le championnat du terroir il y a deux saisons, il me semble, trois saisons,
okay,
en comptant celle-ci. Voilà, et bon, enfin, moi, j'étais, à cette époque-là, j'étais coach de la réserve. Donc, je ne l'avais pas vécu de la même manière. J'étais content, tout ça, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure des saisons, mon implication a grandi dans le club, si tu veux. Donc, là, cette saison, en vivant toutes les étapes de la vie d'un groupe, de la vie d'un club, de comment on s'implique, de plein de choses, en fait. Et en pensant à la saison dernière où on avait fait une finale du Challenge de France où on perd d'un point, ouah, trop d'émotions, quoi. Et là, c'était énorme.
Bon, c'est une belle revanche. Tu es président du Cap depuis l'été dernier, c'est ça?
Ouais,
première,
ouais.
J'ai première saison, bouclier, ça va? C'est pas mal?
Écoute...
t'es la patte de lapin du club?
Non, pas du tout, parce que... Bon, voilà, avec du recul, forcément, tu prends la suite de personne. Donc, le travail est déjà entamé depuis plusieurs saisons. Chacun arrive avec son pinceau, on va dire, la manière dont il veut présenter la chose. J'ai pris une suite, c'était pas simple. Et forcément, une saison de présidence, t'as un bouclier, t'es... Enfin, personnellement, voilà, moi, je suis fier pour mes gars, quoi. Et pour mon club, parce que moi, personnellement, je n'en tire aucune gloire. Parce que le bouclier, j'ai pas joué, Mais moi, c'est l'ensemble, quoi. Ça fait briller l'ensemble. Et c'est ça que je retiens, et ça, c'est beau.
Ouais. Alors, je vais pas faire de billet d'humeur pendant cette émission, mais je vais quand même te poser une question en posant... Je vais quand même pousser un petit coup de gueule, mais parce que on a dans tous les sports, on a des dirigeants, je pense, qui doivent s'ennuyer dans leur bureau, et ils sont sans arrêt en train de changer les divisions, les niveaux, les... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement... Qu'est-ce que c'est promotion régionale 2 ?
Bon, alors, en moins de 2 heures.
Voilà.
Non, je vais essayer de faire simple parce que tu as dit quand même quelque chose de vrai. Voilà. C'est-à-dire que dans les instances du rugby, forcément, ils ont remanié les niveaux plusieurs fois, avec réussite ou moins de réussite, on va dire. Je suis pas là pour juger ça parce que c'est pas moi qui décide.
Non, mais je vais le faire pour toi si tu veux.
Non. Non, c'est pas toi qui décide non plus, je pense. Et. En clair, si tu veux, promotion régionale 2, c'est la deuxième partie du tableau, quoi. Okay. De la faire correspondre à une catégorie des saisons passées, où c'était honneur, promotion honneur, première série, deuxième série, troisième série, ainsi de suite. Je sais pas trop, en gros, promotion régionale 2, tu dois être dans la... peut-être deuxième série, à peu près comme ça, si tu veux. Peut-être que je me trompe.
Le neuvième niveau en France.
Ouais, voilà,
c'est pour ça. Situer à peu près, pour donner un échelon.
Voilà. Ça prouve bien qu'on s'y perd et qu'à un moment donné, ouais, il va falloir faire des niveaux, des divisions, arrêter de les bouger. On a le même problème au foot. Ouais. Il y a le même problème au basket. Voilà, c'est toujours compliqué. Est-ce que au club, ce bouclier, on le prend comme une cerise sur le gâteau, ou est-ce que c'était un objectif l'été dernier?
Bon, déjà, on a passé une saison, la saison dernière, on va dire, on a été, elle a été difficile à commencer, et à partir de décembre-janvier, on s'est remobilisé, il y a eu des choses qui se sont dites, voilà, on s'est pas menti, la deuxième partie de saison a été magnifique, voilà, enfin, des choses que moi... En tant que j'étais encore, c'était la deuxième saison, entraîneur en réserve. Et après, je passais soigneur en une pour suivre le groupe. On s'était pas qualifié en B, c'était compliqué. Voilà. Et malheureusement. Et voilà, enfin, on a vécu des choses incroyables. Franchement, je te le dis parce que moi, j'ai joué. Les émotions de joueur. Et d'après, quand tu portes simplement la valise de soigneur ou tu gueules après les mecs pour les motiver, tu vois, c'est pas pareil en fait. Et c'était déjà magnifique, beau, incroyable. Moi, j'ai des souvenirs en tête. Bref, j'aimerais les revivre un jour. Et cette année, le bouclier est arrivé et il a validé certaines choses, beaucoup de choses pour les gars. Ouais.
Ok, Julien, une question.
À quel âge t'as foulé pour la première fois un terrain de rugby en tant que joueur, du coup, j'imagine, jeune?
Eh bien, écoute, j'ai commencé à 9 ans ici à Pontac, là, voilà, à côté, là, au stade, et en poussin, voilà. J'avais fait plusieurs sports avant. Et je suis venu ici parce que j'avais des copains à l'école qui étaient là et voilà.
Et c'est une fierté pour Laurent Toujas, qui a aujourd'hui quoi, 35-40 ans.
C'est ça, oui.
Qui regarde en arrière et qui se revoit à 9 ans sur le terrain et de se dire « Aujourd'hui, je suis président de ce club. » Après être passé, comme tu l'as dit, entraîneur, soigneur, joueur. C'est une vraie fierté pour toi ?
En fait, la fierté, enfin, je sais pas, chacun voit son, ce rôle-là d'une manière différente. J'aurais jamais pensé un jour dans ma vie être président d'un club de Pontac, voilà. Et forcément, quand c'est arrivé, j'ai rien calculé, j'ai foncé. Et ouais, je suis fier parce que je suis de Pontac, quoi. Et j'ai joué ici J'ai surtout autour de moi des personnes qui me rappellent que bon, on est de Pontac, on est du village, on a joué ensemble ici, on a grandi. Tu as fait un petit bout de chemin à droite, tu as fait un bout de chemin à gauche, mais au final, tu t'es retrouvé sur une passion commune, celle qui te fait transpirer, quoi, celle qui te fait vibrer. Et ouais, franchement, je suis content parce que j'aurais jamais pensé.
C'est bien que tu le dises parce qu'il y en a qui pensent qu'être fier, c'est avoir un ego mal placé, mais moi, je pense en tout cas que tu peux être fier. On se connaît depuis très longtemps, Laurent, je le dis. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir un pote comme toi qui est à la tête d'un club comme celui-ci. Voilà, je le place ce soir.
Ouais, puis on sent des émotions et c'est toujours important, les émotions dans le sport. Il faut qu'elles perdurent, les émotions. Des émotions, je sens que Ludo va nous en faire passer aussi avec sa chronique.
Et vous, le sport, vous aimez ça ?
Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas.
Moi non plus.
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?
Promis, on ne fait de mal à personne sur Pontac Radio. Pontac Sport, en direct jusqu'à 22h.
Je sais pas vous, mais pour moi, chaque saison, j'attends avec une grande impatience les mois de mai et juin. Bon, un peu pour les jours fériés, les ponts, c'est vrai, mais pas que. Et donc, quand on est fan de sport, et plus particulièrement de sport collectif, ce qu'on attend toute la saison, ce sont les play-offs, les phases finales. Ces matchs à élimination directe, do or die, à la vie, à la mort. En Béarn-Bigorre, on a vécu quelques émotions, les play-offs de l'Élan Béarnais et du BHB, malheureusement tous deux terminés trop vite. L'épopée des filles du TGB qui sont ici à la surprise générale en finale du championnat. Et puis récemment, au niveau européen, j'ai vibré pour la finale de l'Euroleague de basket entre Monaco et Fenerbahçe, la finale de foot, la Ligue des Champions avec le PSG, et puis la Champions Cup en rugby avec le sacre de l'UBB et la fête qui a suivi à Cardiff. Cardiff, on en reparle dans quelques instants. Ouais, depuis tout petit, en fait, j'ai vibré pour ces matchs-là. Retour en 1993, j'avais 14 ans. Finale départementale minime. Ça se jouait à Cercas-Tête, c'était contre la Jeanne d'Arc d'Oloron. Et oui, une finale à cet âge-là, on peut pas l'oublier. Et pourtant, à l'époque, pas de compte Facebook, Instagram pour immortaliser l'événement. Encore moins de selfies de la victoire ou de story. Je me souviens plus trop du match, du score et de combien de points j'avais marqué. Non, pas ça, je m'en fiche. Par contre, ce dont je me souviens, c'est du bruit dans la salle, de nos parents, les frères, les sœurs, les cousins, les copains maquillés en rouge et noir à l'époque avec une corne de brume, un beau bordel, une sacrée fiesta. Toute la saison, tu joues devant 10 Peloy et pour la finale, tout à coup, t'as l'impression que tu joues en finale de Coupe du Monde. Bon, je mets fin au suspense insoutenable, les copains. Bien sûr, on avait gagné, hein. Et on avait même sacrifié à la photo torse nu d'ado tout flinguette qui montre les biscottos, se prenant pour des bestioles, comme on disait. Et ouais, parce que quand t'es champion, et ça change pas, eh ben, t'as le droit de te prendre pour un autre, ça, c'est sûr. Cette ambiance de fête autour d'un match de gamin, ben, j'adore ça. Et si tous les parents qui gueulent pour la finale de leur progéniture mettez la même intensité pour les révisions des pitchounes. 6 x 5, allez, 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 COD, allez, allez, allez. Mai 2009, changement de décor. Cette fois, ce sont les arènes couvertes d'or sérieux dans les Landes qui accueillent la finale régionale de basket. Bonut Sport, mon club de cœur, petit village béarnais à la frontière des Landes, couleur rouge et blanc, 800 habitants, affronte Sainte-Colombe-en-Bruyois. Un village loté-garonné à peine un peu plus grand. Les arènes sont pleines, une ambiance de folie. Une heure avant le match, t'as 300 personnes qui portent tes couleurs. Ouais, 800 habitants et 300 supporters. C'était énorme. Une immense banderole avec le visage de tous les joueurs dessus. Une banda, bref. Tu commences l'échauffement, mais clairement, t'es déjà chaud patate. Bon, je remets fin au suspense insoutenable. Évidemment, on avait gagné. Ouais, je me rends compte que ça fait plus de 30 piges que je suis un drogué des phases finales. Et je les kiffe tellement ces moments qu'en vieillissant, avec quelques potes d'enfance, on s'est lancé dans un kiff. Assister chaque saison à la finale de Champions Cup, la Coupe d'Europe des clubs en rugby. Mais peu importe où elle se joue, et surtout, avant même de savoir quelles sont les équipes qualifiées.
Mais avant de vous parler de la finale à Cardiff, je vais vous faire part du résultat d'une étude que je mène depuis plus de 30 ans. Les recettes d'une victoire en finale. Écoutez bien. Pour gagner une finale, il y a quelques phrases idiotes qu'un coach ne doit surtout pas prononcer à son équipe. La plus évidente, l'important c'est de participer. Ah non, non, non. En sport, si tu penses comme ça, tu t'achètes des pop-corns, tu regardes les matchs le cul sur ton canapé et surtout, surtout, t'enfiles pas de maillot d'un sport collectif.
Pourtant, c'est très français ça.
Exactement. Non, pour gagner le dernier match de la saison, la grande finale, écoutez-moi bien. Premier point, cultiver toute la saison des valeurs collectives, mais des vraies valeurs collectives. C'est un fonctionnement de groupe, dans lequel le groupe est plus important que l'individu, plus fort que la somme de ses individualités. Pour cela, il faut que le coach soit, depuis le début de saison, exigeant, loyal, clair et honnête avec chacun de ses joueurs. Le coach doit transmettre de la sérénité à son groupe. Dans les mots, bien sûr, mais aussi dans le langage du corps, dans chacun de ses gestes et tout au long de la saison. Il faut aussi que chaque joueur connaisse son rôle, connaisse la partition qu'il doit jouer, parce qu'en finale, il n'y a pas de place pour réfléchir, hein. Pas le temps pour l'analyse. Il faut que toute action soit jouée sur la mémoire du corps, la mémoire de la gestuelle, l'instinct. Le sportif s'est tellement entraîné que sa gestuelle doit devenir un réflexe. Autre sujet à ne pas négliger. Au plus bas niveau, comme dans les plus grands stades, les jours de finale, la communication entre joueurs est quasi impossible avec le bruit incessant des supporters. Et ça, c'est pas habituel, ça change énormément les repères. Dans les temps faibles d'une finale, dans les moments difficiles, ce sont les liens entre les joueurs qui font la différence. Les liens, c'est la capacité à se comprendre sans se parler, c'est se connaître. Et pour se connaître, il faut s'écouter tout au long de la saison. Chaque entraînement, chaque moment passé dans le bus, la bière, d'après-match, l'entraînement, c'est des moments hyper importants. Allez, autre point fondamental, la loyauté. Pour qu'une équipe termine sa saison en apothéose avec un trophée, il faut savoir se parler vrai. Laurent en a parlé, pour ne pas qu'il y ait de non-dits de messe basse, ça c'est indispensable. Parce que les non-dits, les groupes WhatsApp pirates, ça, ça vous pète à la gueule au plus mauvais moment, je vous le garantis.
Dans le cul, Lili, dans le cul.
Je pourrais vous parler encore des heures et des heures de phase finale, d'épopée, de titres, moi ça me passionne. Mais je vais conclure en vous partageant un ressenti que je vous ramène de Cardiff. À Cardiff, une heure avant le match, les Bordelais s'échauffent. J'ai la chance d'être situé en bord de terrain vers la ligne des 22. Et là, il se passe quelque chose. Les joueurs sont concentrés, visage fermé. Et je vois le regard de Maxime Lucu, le demi-mêlée international originaire de Saint-Pé-sur-Nivelle. Son visage est un mélange de concentration, de détermination, mais pas seulement. Il est habité, il scrute les tribunes et il a vu. Il a vu quelque chose qu'il est le seul à percevoir. Il a aperçu dans les tribunes l'Ikurriña, le drapeau basque pour les non-bilingues. Des supporters, là, assis à quelques mètres de nous, brandissent fièrement ce drapeau. Et je sais pas comment vous l'expliquer, mais par un jeu de regard sur son visage, Maxime envoie un message qui dit « Les gars, on va avoir besoin de vous ». Les dernières minutes du match, les dernières mêlées, Pierre en parlait, c'est exactement ça. Elles ont lieu pile poil devant nous. Maxime Lucu a orienté le jeu pour se retrouver devant cette tribune, devant cette énergie-là. Alors je trouve pas les mots exacts pour décrire le truc, mais on avait l'impression que l'énergie des supporters, elle passait par Maxime et elle aidait l'équipe à pousser en mêlée. Pour ceux qui ont vu le match à la télé, on a vu un Maxime Lucu extraordinaire dans le leadership, dans la maîtrise émotionnelle. Il a été élu homme du match. On a compris, juste après le match, qu'on était en fait assis à quelques mètres des familles de joueurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Maxime a puisé dans ses racines familiales une force mentale incroyable. C'était un moment d'une intensité rare, un moment fort autour du sport, de la passion et du partage. En somme, ces petits riens qui font du cœur de sportif un cœur de champion.
Merci Ludo, je pense qu'on a besoin d'une petite respiration. Et alors, on y va tout de suite avec JB Bulé, dernier port sur Pontac Radio.
Ce soir un cyclone m'a soufflé, le clair de lune au goût salé. Ainsi en ai jeté le sort. Tu t'amarres au dernier port, tant aimé sans y parvenir, de retrouver un vrai sourire. Là-bas la lumière du phare, havre de paix dans la nuit noire. Les cieux ont su me guider, lueur polaire sur la grande baie. J'ai noué au creux de nos mains l'appel du large des lendemains. Mais c'est la nuit que je respire, que je me pâtis des empires, de la fumée dans mes poumons pour retrouver un horizon. Rien n'arrêtera mon chemin, que la grande ours en soit témoin. Tous les bateaux feront naufrage, tu me protégeras de l'orage. Guidé par les constellations, j'atteindrai ta destination. Mais c'est la nuit que je respire, que je me bâtis des empires, de la fumée dans mes poumons pour retrouver un horizon. naviguions hors des saisons, sans gouvernail, sans direction, à la dérive, mon ver chavire, loin des récifs, des souvenirs. Ainsi je sombre, ainsi je dors, et tu t'amarres au dernier port. Mais c'est la nuit que je respire, que je me bâtis des empires, de la fumée dans mes poumons pour retrouver. Mais c'est la nuit que je respire, à fleur de quai, prêt à partir. Un jour les vents s'inverseront, nous étions juste.
Vous écoutez Pontac Radio, il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Le sport se vit aussi sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram @PontacRadio.
Vous écoutez Pontac Radio, il est 21h passé de quelques secondes et il est l'heure d'attaquer la deuxième partie de Pontac Sport, l'émission. Depuis 20h30, on ne parle pas d'un sport en particulier, on parle champion. Et notre invité du soir, c'est Laurent Toujas, président des champions régionaux de promotion régionale 2 de rugby, le club athlétique pontacais. Bonsoir Laurent.
Bonsoir à tous.
Pour m'accompagner autour de cette table, Pierre, Ludo, Bastien. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Julien, le boss, est là aussi. On rappelle que c'est toi qui, tout au long de l'émission, est à l'affût pour être le porte-parole de nos auditeurs. Alors n'hésitez pas à envoyer des questions via les réseaux sociaux de Pontac Radio.
Bonsoir. Exactement. Julien. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Il y a déjà quelques questions qui vont être posées tout à l'heure à Laurent Toujas, notre invité. Et puis ce sondage en story sur le Insta de Pontac Radio. Pour vous l'été, c'est plutôt autant de sport que le reste de l'année. Ou alors, eh bien, c'est relâche, barbecue et feria. Vous pouvez voter sur le sondage et puis aussi répondre et agrémenter votre vote d'un petit commentaire.
Avant de débattre et de retrouver Bastien qui nous rappellera de bons souvenirs, on va débuter cette deuxième partie d'émission par l'agenda sportif.
Pontac Radio, l'agenda sportif en Béarn et Bigorre.
Allez, on sort les baskets, les shorts moulants, les casques, c'est l'agenda sportif de la semaine.
Et on commence Nico, on commence fort avec du 13 au 15 juin, le Tour féminin international des Pyrénées. 3 jours de course, 3 étapes de haut niveau avec les meilleures équipes cyclistes féminines du monde. Au programme des paysages magnifiques entre Arzak-Arazigué et Pau et surtout un passage mythique par le col du Soulor. Bref, un spectacle sportif à ne pas rater.
Ça grimpe et ça continue.
Ouais, le 19 juin, direction Tarbes pour le Tarbes Urban Trail. Une course de 11 km en plein cœur de la ville entre le Palais des Sports et les Cassettas de la place du Foirail. Et en plus de te faire plaisir, Nico, je sais que tu iras. Tu feras une bonne action. 1 euro par inscription reversé à la SPA 65. Et les autres bénéfices, eux, iront à l'association Les Chiens du Silence. Le sport qui a du cœur, ici à Pontac Radio, on aime ça.
J'irai effectivement, mais je les attendrai aux Cassettas en revanche. Et le 22, c'est double dose de trail.
Exactement. D'abord à Sarcas avec les 3 heures du Soubestre. C'est une boucle de 6 km à faire en solo, en duo ou en trio. 3 heures chrono, ça pique un peu hein, mais c'est pour les jambes, c'est bon pour les jambes. Et puis il y a aussi une marche de 4 km qui, elle, je le sais, sera plus tranquille et elle sera pour toi Nico.
Et l'autre dose?
L'autre dose, c'est à Arthez-Dasson, toujours le 22 juin, pour le Ouzoum Tour Trail. Pardon. Deux parcours bien costauds, 20 km d'abord avec 1500 de D+, ou alors, tenez-vous bien, 30 km avec 2300 de D+. Là, on est sur du vrai trail de montagne pour les costauds du Mollet.
Et pour finir, grosse vague d'adrénaline.
Oh que oui, toujours du 13 au 15 juin au Stade d'Eau Vive, Parc Aquasport, c'est donc à Bizanos. Eh bien, c'est la Coupe du Monde ICF de canoë kayak slalom. Plus de 250 athlètes du slalom, du kayak cross, avec des départs en glisse hyper spectaculaires. Et autour du bassin, eh bien, un vrai village d'animation. Développement durable, sport de nature, marché de producteurs, sans oublier tombola et l'eau à gagner. Tout ça, c'est avec votre billet d'entrée. Et puis avant de se quitter, Nico, un petit rappel utile, puisque les campagnes d'abonnement ont commencé pour le Pau FC, le Pau Billard Handball et l'Élan Béarnais, ça te tient à cœur.
Et oui, effectivement, parce qu'on a la chance d'être dans une région avec plein de clubs pro à haut niveau. Et si on veut que ça continue, ben, il faut les soutenir, aller les voir, les encourager. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller vous pencher sur les campagnes d'abonnement de nos clubs aux alentours de Pau, Tarbes, etc. Ben maintenant qu'on sait quoi faire dans les prochaines semaines, on peut enchaîner tout de suite avec le débat du soir.
Chérie, c'est décidé. Demain, je me remets au sport. Si, si. Écoutez, l'émission Pontac Sport m'a remotivé. Pontac Sport jusqu'à 22h sur Pontac Radio.
Alors, l'été arrive à grands pas. Les vacances, la plage, les barbecues, les fêtes de village, les férias. Ben, tout ça arrive aussi, le sport dans tout ça. Alors, cet été, est-ce que vous faites autant de sport que durant le reste de l'année, ou c'est plutôt relâche, barbecue et feria? Chers auditeurs, continuez à répondre à cette question sur la story dédiée sur les réseaux sociaux de Pontac Radio. Et en attendant de se pencher sur vos réponses, on va se faire un petit tour de table dans l'équipe. Bastien.
Oui, alors je vais commencer. Alors, question difficile, parce que pour moi, il faut...
Attention, on a installé un détecteur de mensonges dans le studio.
Je pose la main dessus, alors.
Le détecteur de mensonges, c'est Ludo qui lève la main sur Bastien. Il va lui mettre un bon revers.
Allez, vas-y, gamin.
Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut profiter, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que plus de temps je passe en feria, plus de... Arrête de faire la flûte, Ludo. Plus de temps je passe en feria, plus de temps je vais devoir faire du sport pour rattraper ce que j'ai mangé, ce que j'ai... busque, voilà quoi. Pour moi, il faut trouver un juste milieu.
Toi, c'est, pour toi, c'est un cercle vicieux, quoi.
Ouais, un petit peu, quelque part. Après, voilà.
Mais du coup, la solution, c'est de ne pas faire les férias.
Mais c'est une tradition, Julien. Attends, s'il te plaît. Non, non, obligé. Mais après, on peut faire les férias en étant un peu soft, tranquille. Moi, par exemple, je bois pas. Ne fais pas la flûte, sauf Ludo, c'est vrai. Donc, moi, je ne bois pas, mais par contre, je profite des traditions, des férias, notamment à Bayonne. Je profite des traditions. Puis après, quand je rentre, je me dis, tiens, au fait, il faudrait peut-être faire un peu de sport. Et puis après, je me remets un peu au sport, et puis bon, normalement, ça passe.
Ludo ?
Bah, moi, j'ai envie de parler du passé, hein, parce qu'en sport-co, quand j'étais jeune, je vois pas pourquoi on faisait pas de sport et pas de férias. C'était tout, hein, on faisait tout. Hein. Jeune, Nico, toi qui es de ma génération.
Ouais.
Ouais, effectivement. Alors après, moi, j'ai toujours pris entre 5 et 7 kilos l'été.
Oui.
Entre 5 et 7 kilos l'été.
Ouais, mais ouais, les rendez en août.
Mais dès qu'on reprenait l'entraînement fin juillet, début août, au bout de 3-4 semaines, ils étaient repartis.
Du coup, j'ai une question. Jusqu'à un certain âge, repris l'entraînement.
On y vient.
Mais jusqu'à un certain âge où, au bout de 3 semaines, ils étaient toujours là. Mm-hmm. Je me suis dit, tiens, c'est ça l'âge. Voilà. Mais
j'ai vécu des étés à faire quand même plus de sport et un peu de feria, et j'ai repris en septembre en forme. Mais effectivement, dès que tu fais les ferias et moins de sport, en septembre, tu vois que t'es en galère jusqu'à Noël, parce que le temps de revenir physiquement, quoi. Bon, après, maintenant, à mon âge, moi, évidemment, l'été avec les vacances et plus détendu, ben, je fais plus de sport que l'année. Voilà. Mais ça, c'est peut-être un rythme, on va dire, d'ancien, entre guillemets.
Julien, est-ce que je te pose la question ?
J'ai là quand même la particularité de pouvoir choisir les deux, parce que je fais l'été autant de sport que le reste de l'année, tout en me relâchant en faisant les férias. Ouais,
0 plus 0 égale la tête à Toto, on le rappelle.
Donc, mais c'est quand même, je suis le seul gars à pouvoir répondre les deux. Si je dois choisir, je dirais que je fais peut-être plus du coup de sport l'été que le reste de l'année, parce que le seul sport que je pratique, c'est le jet ski, j'en ai assez parlé ici, et l'été, je ne le fais pas l'hiver. Donc l'été, oui, je vais faire du jet ski. Et donc c'est plus que le reste de l'année, mais bon, c'est deux sessions, une session ou deux dans l'année, donc c'est pas...
Je me note un débat pour le début de saison prochaine.
Est-ce que tu prends cette réponse là, parce que
le jet ski est un sport,
hein? Je suis d'accord avec toi là.
Qui a fait du jet ski ici autour de la table?
Ouais, non, jamais
fait, ouais. Ouais, personne. Ceux qui n'ont jamais fait, allez me faire deux heures en rando, on verra si vous avez pas mal.
Je suis sorti plus fatigué d'un footing de deux heures que deux heures de jet ski.
Oh, petit joueur, Julien.
Non, c'est Nico qui vient de parler.
Oui, je sais, mais
parce qu'il est d'accord avec moi.
Voilà, merci.
Pierre.
Eh bien, écoute, l'année dernière, je t'aurais répondu plus barbecue et tout ça. Je pense que ça se voit.
Que s'est-il passé entre-temps?
Sauf que cette année, j'ai eu le malin plaisir de m'inscrire au semi-marathon Lourdes-Tarbes, là, à la course de 12 km.
Moi aussi, je me suis inscrit.
Alors,
tu fais pas les choses à moitié, toi.
Non, voilà, je l'avais dit en début d'année. Je me suis inscrit, là, il y a 3 semaines. Et
12 km, c'est un semi, non?
C'est la moitié du semi en fait.
C'est juste une précision.
Voilà. C'est très peu du marathon. Mais bon, c'est déjà mieux que rien.
Oui.
Mais
donc, oui.
Il faut que je
m'entraîne. Du coup, il fait pas les fêtes de Bayonne, il fait les fêtes de Mouguère.
Voilà. Non, du coup, il faut que je m'entraîne dur cet été. Mais le problème, c'est que voilà, on part avec les copains, voir le Tour de France, voir faire 4 barbecues. Donc, un peu des deux. Mais il faudrait que je m'entraîne plus que je fasse des barbecues. Quoi.
Laurent Toujas, notre invité, président du CAP Rugby.
Ouais, non.
Tes joueurs t'écoutent, tu peux dire que t'es hyper sage. Mais non, mais par exemple, est-ce que le président, le staff, dit aux joueurs, les gars, soyez raisonnables cet été?
Ah, bien sûr, là, on a commencé à faire passer des messages que les mecs soient sérieux et qu'ils arrêtent de peinter, quoi.
D'accord.
Mais c'est faux.
D'accord.
Est-ce qu'il y a un fameux programme à suivre?
Non, après, de toute façon. La vie festive fait partie aussi de la vie de sportif, donc forcément l'été il y a du relâchement, mais il y a aussi une préparation un peu individuelle, voilà. Enfin, ça c'est chacun qui le voit, je pense. Moi j'aimais bien allier les deux. Aujourd'hui j'ai moins le temps.
Laurent, croisant mon expérience, après un titre, fais gaffe. Parce que c'est là que l'été, tu fous plus rien. Le relâchement, voilà, et tu te sens toujours plus fort que t'es après un titre. C'est normal, hein, il faut le garder. Mais ça, c'est dur d'enchaîner après l'été, quoi.
Je crois qu'il est au courant parce que ça fait un mois qu'ils ont rapporté le bouclier, ça fait un mois qu'ils font la fête.
Ouais, c'est ça.
Ils ont le clubhouse à côté de nos futurs locaux. Et disons qu'il y a pas mal d'activités, c'est vrai, depuis un mois.
Après, les joueurs, ça, je leur fais confiance. Je sais qu'il y a des bonnes bandes, oui, des mecs qui, il faut pas trop les pousser. Mais après, de toute façon, on verra à la reprise des entraînements, hein, comment ils sont. Hein, donc là, il y aura le verdict.
Et à son sport en balle, est-ce que les joueurs ont des consignes? Est-ce que l'entraîneur montre l'exemple? Comment ça se passe?
L'entraîneur a envoyé la prépa individuelle cet après-midi. Donc j'espère qu'ils vont la
respecter. L'amener.
Ouais, mais avant ça, on va quand même partir faire la bringue tous ensemble en vacances en juillet, joueurs et entraîneurs. Et on pensera à la prépa. D'abord les barbecues. De toute façon, même si on leur dit le contraire, ils vont quand même les faire.
Bon, c'est un peu paradoxal en fait, parce que l'été, il fait jour plus tard. On sort du boulot, on n'a plus l'excuse du je voulais aller courir, mais il fait nuit, je peux pas y aller. Il fait souvent plus beau, donc tout est à se rassembler, j'ai perdu mon mot, pour qu'on aille faire du sport. Et pourtant, il y a d'autres tentations. Donc c'est quand même un problème qui est difficile à résoudre.
Ouais, après,
Julien.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment une théorie dans l'autre sens. C'est l'hiver, on est toujours en train de faire du sport. Enfin, je dis on. Vous êtes toujours en train de faire du sport dans l'idée de préparer votre summer body. Moi, je me dis pourquoi l'été, on préparerait pas
Julien, ouvre les deux yeux, s'il te plaît. Les deux yeux en même temps et parle pas de summer body avec ton équipe aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai. On prépare l'hiver le corps de l'été et l'été, pourquoi on préparerait pas le corps de l'hiver?
Moi, je crois pas que le sport, on se prépare à un corps, hein, Julien. Enfin, je suis pas trop sûr que les gens autour de cette table, quand on fait du sport, c'est pas pour le corps. Je pense que là, aujourd'hui.
Il y a des personnes à qui ça motive. Hein.
Oui, non, bien sûr, là. Tout à fait, mais là les gens autour de la table, on est tous issus de Sportco, et dans le Sportco effectivement, voilà.
Mais moi, Julien, j'ai une question pour toi du coup, quand tu fais ton jet ski là, c'est quoi ta prépa?
Je mets un gilet.
Il se met de l'eau sur la nuque.
Je me mouille la nuque.
Ouais, c'est pas trop intensif quoi alors.
Non, ça dépend si tu le fais sur... Non, la prépa est pas du tout intensive. Généralement, j'essaie de faire ça après avoir mangé au restaurant.
Et avant de faire un barbecue.
le soir.
Non mais Ludo, tu vois, par rapport à ce que tu disais, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui font du sport pour leur apparence.
Ouais, attention.
L'histoire du summer body, c'est pas une légende. Si on va demander dans toutes les salles de sport, ils vont t'expliquer que mars-avril... C'est là où ils font les meilleurs chiffres parce que les gens ils vont faire du sport 2 mois avant de se mettre sur la plage en maillot et que ils sont contents à la salle de sport parce que les clients tu les vois pendant 2 mois et après tu les revois plus de l'année.
Et est-ce que ceux qui travaillent leur summer body font les férias? Est-ce que tu as mené l'enquête?
Enfin, je pense.
Je sens qu'on va t'envoyer en reportage, toi, en mars-avril 2026, dans les salles du coin.
Ah, je croyais au feria pour vérifier.
Et du coup,
ça me plaît comme mission, mais bon, les salles...
Il faut faire le penchant, le pendant, donc tu feras les deux.
Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, on voit de plus en plus de jeunes dans les férias, short, court, torse nu, qui montrent effectivement qu'ils ont travaillé le summer body. Ouais.
Après, il y a un autre aspect de la chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est... Quand on est sportif, je pense que Laurent ne me dira pas le contraire, la saison elle est longue aussi pour les mecs, pour les joueurs de, du SCAP rugby. En fin de saison, mai, juin, ils en ont ras la casquette et ils ont envie de profiter aussi. C'est dans un sens un peu logique.
Ouais, c'est vrai. Mais après, ça dépend. Tu vois, tu as parlé du culte du corps. Là, et je pense que ça dépend. Ça dépend des gars, en fait. Ça dépend de l'ambition de chacun. Tu as des gars, ils vont être dans le rugby pour le côté festif. Et t'as des gars, ils vont être dans le rugby ou un autre sport pour vraiment le côté sport, parce qu'ils aiment le sport, quoi. Ils aiment jouer, s'entraîner, mais en plus ils vont aller à la salle, ils vont aller courir. Ça, c'est, je pense que c'est différent suivant les individus. Voilà.
Ludo, il a l'air d'accord.
Non, mais moi, je connaissais pas Laurent, mais j'aime beaucoup la manière dont voit le sport Laurent. Ça m'étonne pas qu'il soit président et qu'il ait du succès, pour tout te dire.
Alors, c'est pas toi qui veut recruter ces pierres pour l'équipe de rugby.
Mais moi, là, vraiment, un coach mental. Moi, un coach mental aujourd'hui.
Laurent, à sa gauche, il y a à sa droite, il y a Pierre, à sa gauche, il y a David. Il est entouré de sacrés sacrés armoires à glace, quoi.
C'est vrai qu'il y
a
après, Julien, excusez-moi, je te coupe, Nico. C'est vrai que. Comme tu l'as dit, mais j'ai pris deux licences là. Mm-hmm. Et je pense qu'après l'émission, on va les signer là.
Ouais, pour les garçons. Oui,
ouais, pour les garçons, je pense que c'est deux bonnes recrues là.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie, ils peuvent venir s'entraîner et jouer le week-end.
Tu cherches pas un demi de mêlée parce qu'il y a Bastien.
C'est pas mauvais. J'ai joué demi de mêlée. J'ai joué. Ça peut. Ouais, et après, je suis passé hier parce qu'à un tournoi, j'ai marqué 7 essais. Mais j'ai jamais rien demandé moi. Mais j'ai juste marqué 7 essais. On me dit, tu vas devenir ailier. Ben voilà.
Bon. Mais en tout cas, ailier ou demi de mêlée. L'important pour l'instant, c'est que tu nous présentes ta chronique.
Moi, demain, je vais écouter Pontac Sport.
Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu ?
Bon, ok. J'allume Pontac Radio maintenant.
C'est maintenant ou jamais !
Pontac Sport, le lundi de 20h30 à 22h sur Pontac Radio.
Ce soir, je vais vous parler des équipes béarnaises et pyrénéennes qui sont titrées dans leur catégorie sportive, faisant un bond en arrière et découvrant le palmarès des équipes de chez nous. Alors tenez-vous bien parce que ça va parler chiffres et années.
Allez, on commence par l'Élan Béarnais.
Oui, Nico, et l'Élan Béarnais en championnat de France, c'est... Alors attention, je me lance. 1986, vainqueur d'un play-off à 8 poules. 1987 et 92, vainqueur face à Limoges en finale. En 1996, vainqueur face à Villeurbanne en finale. En 98, ils sont pas champions du monde, mais ils gagnent en finale contre Limoges, encore une fois. En 1999, 2000... Et 2003, trois nouveaux titres face à Villeurbanne. Et puis le dernier titre en championnat de France, c'était en 2003, lors de la victoire contre Gravelines. Donc 9 fois champion de France, c'est quand même pas rien. Il gagne aussi le championnat de France de Pro B en 2010 à Bercy, en battant Limoges 78 à 62.
Et sans oublier les Coupes de France et Coupes d'Europe.
Pour la Coupe de France, l'Élan l'a remporté 4 fois en 2002. 2003, 2007 et le plus récemment c'est en 2022 contre Strasbourg. Côté européen, il remporte la Coupe européenne Corac en 1984. Il participe aussi à de nombreux tournois et coupes. En tout cas, au total, c'est 246 matchs européens auxquels l'Élan Béarnais a participé.
On aurait pu parler foot, mais avec le Pau FC, c'est compliqué puisque c'est un club qui est en ascension et les pauvres, quand ils sont champions. Comme champion de national en 2020, ouais. Eh ben on est en plein Covid et ils n'ont même pas pu le fêter. Alors on va passer au rugby et notamment la section paloise.
Oui, alors cette fois il y a quelques petites choses à dire. Pour la section paloise, ils ont été demi-finalistes de la Coupe d'Europe en 1998. En challenge européen, ils sont vainqueurs en 2000 et finalistes en 2005. Pour les compétitions nationales, ils ont été champions de France en 1928, 1946 et 1964. Champions de France de deuxième division aussi en 2015. Et c'est ce qui a signé leur retour en première division, qu'on appelle maintenant le top 14. À noter beaucoup de victoires aussi lors d'anciennes compétitions, comme le Challenge Yves du Manoir ou le Challenge Antoine Béguer. On retiendra surtout que la section paloise Béarn-Pyrénées est trois fois championne de France et actuellement au meilleur niveau français.
Finissons avec les gros clubs béarnais. Parlons du Pau Billard Handball, pardon.
Oui, alors ils sont en plein développement, hein, le Pau Billard Handball encore, avec un petit palmarès, mais bien sympa quand même. Vice-champion de Pro League en 2012, champion de National 1 en 1999 et 2019. A noter une belle et vibrante saison réalisée par les joueurs du PHB au Sporting d'Est.
Parlons maintenant de nos voisins pyrénéens.
Oui, je dirais même nos cousins.
Tu les appelles comme tu veux.
Voilà, si vous l'acceptez. En termes de palmarès, on va parler du TGB, de l'Union Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc en basket, mais aussi du rugby avec le Stade au TPR et le FC Lourdes rugby.
Et quel est le palmarès des filles du TGB après leur belle saison ?
Gros palmarès pour les Violettes, championne d'Europe en 1996 et finaliste en 2002, championne de France en 2010. Mais bon, il faut quand même noter qu'elles ont perdu 7 finales de championnat de France. La dernière date d'il y a quelques semaines, malheureusement, contre Basketland. Elles sont aussi vainqueurs de la Coupe de France en 1996, 97 et 98. Et puis pour finir, c'est important de vous dire qu'elles aussi, elles ont gagné de nombreux challenges et tournois. Je vais directement faire la transition avec les gars de l'Union Tarbes-Lourdes-Pyrénées Basket, donc, qui n'ont à ce jour aucun palmarès, étant donné la création de la fusion des deux clubs de Tarbes et de Lourdes, qui s'est faite en 2010.
Allez, rugby, parle-nous pour terminer du Stade au TPR et du FC Lourdes rugby.
Je vais commencer par les rouges et blancs du Stade au TPR, anciennement Stade au Cest Tarbes. Ils furent champions de France de première division en 1920 et 1973. Ils sont battus en finale à 3 reprises. Comme la section paloise, ils ont participé à de nombreuses compétitions nationales, aujourd'hui disparues. En ce qui concerne le FC Lourdes rugby, les rouges et bleus, ce n'est pas la même chose et c'est même l'un des plus gros palmarès du rugby français. Oui, oui, c'est bel et bien le cinquième club le plus titré de France derrière le Stade Toulousain, le Stade Français, l'AS Béziers et le SU Agen. Le FC Lourdes, c'est 8 titres de champion de France de première division et 3 finales perdues. Les chiffres, ils ont été champions en 1948, 52, 53, 56, 1957, 58, 60 et 1968.
Voilà, c'est un peu ça. C'est pas le tirage du loto. Hein.
Non, mais il fallait quand même donner les 8 parce que si des Lourdais nous écoutent, c'est important pour eux. Hein. Alors voilà, c'est le club de rugby le plus titré par chez nous et l'un des plus grands clubs de rugby français, ou du moins c'était.
Eh bien, merci Bastien. On va enchaîner tout de suite avec notre invité du soir, Laurent Toujas, le président du Cap Rugby.
Contact Sport Rugby.
Alors, l'huissier est enfin arrivé dans nos studios. Julien va pouvoir donner le résultat du vote de notre question débat du soir.
Eh oui, qu'on a un tout petit peu oublié de faire. Non, Tania est absente, on s'est perdu tous nos repères. On vous a posé la question sur Instagram dont on parlait il y a quelques secondes. Pour vous l'été, c'est autant de sport que le reste de l'année ou alors relâche, barbecue et feria. Eh bien, c'est sans appel, vous êtes 71% à vous relâcher l'été, à faire barbecue et feria contre 29% à faire autant de sport que le reste de l'année.
Est-ce voilà. que j'ai le droit de dire qu'on a les auditeurs qu'on mérite?
Ah bah, là, on est... bien sûr, fais-toi plaisir.
Allez, on retrouve tout de suite notre invité Laurent Toujas. Laurent, je voulais qu'on rebondisse un petit peu sur la rubrique, sur le billet, billet d'humeur.
La rubrique.
C'est un billet sentimental d'un romantique du sport qui est Ludo. Il nous a dit plein de choses vraies tout à l'heure. Moi, j'ai envie de rebondir sur. Il y a des jeunes, j'imagine, dans l'équipe du Cap Rugby, toi t'as un peu plus de bouteilles, moi encore plus que toi, mais est-ce que ces jeunes-là, ils sont conscients qu'ils ont vécu là quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie?
Je pense qu'ils s'en rendront compte plus tard, parce que c'est souvent comme ça en fait, tu traverses des aventures, tu vas gagner un titre, déjà toutes les équipes, toutes les générations ne gagnent pas forcément un bouclier. Mais ça, malheureusement, tu t'en rends compte après. Et tu t'en rends compte souvent quand tu as raccroché les crampons ou quand tu as arrêté le sport que tu as fait. Voilà. Mais moi, ce que j'ai trouvé, bien en fait dans le texte de
Ludo.
C'est en fait tout ce que tu as évoqué en fait dans tes lignes, c'est exactement ça. Je me retrouvais un peu dedans, pas que ça soit mon discours ou que c'est moi qui détienne la vérité, pas du tout, loin de là, mais en fait c'est ça, en fait c'est quand tu fais un sport d'équipe en commun, t'essaies de transmettre ces valeurs, en fait ce sont des valeurs d'homme, en fait ce sont des valeurs de respect, c'est des valeurs de se battre pour la même chose en fait, voilà. Et plus tu te fais confiance dans une équipe, plus le groupe prend de la confiance, et avec cette confiance là en fait tu peux, je ne vais pas dire que tu peux battre tout le monde, mais tu peux battre beaucoup plus d'équipes. Voilà. Le côté mental d'un groupe, pour moi, ma vision, c'est en fait, je vais dire 60-70% de l'impact sur le terrain d'une réussite. Et en fait, j'ai adhéré entièrement à ce que tu as dit, parce que j'essaie par mes mots, souvent je parle aux gars parce que j'en ai besoin, je suis comme ça, je suis expressif et je préfère dire les choses que les rougagner dans mon coin ou regretter de ne pas les avoir dites. Des fois ça m'arrive, mais bon. Et en général, j'essaie de transmettre ces valeurs-là pour aussi, surtout, transmettre ce que moi, on m'a eu dit et ce que je peux essayer de transmettre par ces mots-là. Parce que, avec du recul, et comme je t'ai dit, tu t'en rends compte que les choses sont bien une fois qu'elles sont finies, en fait, et ces souvenirs-là sont gravés à vie, mais tu t'en rends compte après, et essayer de prendre conscience des choses. Voilà.
Ouais, c'est important. Julien, est-ce qu'on a des questions auditeurs?
Oui, alors il y a des questions sur le Insta en sticker story sur @pontacradio. On a Pompon 6430, donc tu vois qui c'est notre ami Jean-Charles Dupont, qui demande où est le bouclier. C'est une vraie question parce qu'on voulait que tu l'amènes ce soir pour faire la photo. A priori, il lui est arrivé une sombre histoire.
En fait,
on a dit qu'on n'en parlait pas.
Je rigole. C'est ouais, vrai. Jean-Charles. Ouais,
non. Tu m'as foutu un doute.
De toute façon, Jean-Charles, j'ai deux choix en fait. C'est soit je réponds à la question parce que je rentre dans le jeu, ou soit je réponds pas parce qu'il sait exactement où il est le bouclier.
Alors pour nos auditeurs donc, bon, qui ne savent pas où il est, tu peux lui répondre dans ton cul aussi. Mais...
Non, je me permettrai pas parce que bon, je respecte Jean-Charles et j'ai pas envie de tout envie de
non,
dire.
Non, moi ça. Je veux pas. Non, en fait, respecte le... Jean-Charles aussi. Il m'a sauvé la vie il y a 15 jours.
Le bouclier, en fait, il a eu une drôle d'histoire parce qu'il l'a mal commencé. Déjà dans le vestiaire, il a commencé. Il a glissé accidentellement. Et
c'est
on s'est retrouvé,
on
s'est retrouvé en partant de Gers avec Jean-Charles tous les deux en tant que scientifique qui répare des boucliers à le réparer à base de vis auto-foreuse et de silicone. Et au fait, je pense qu'il a pas dû dépasser 3 heures de plus dans la soirée. Mais à part que là, il a fini désossé quoi.
Ah ouais.
Voilà.
Okay. Je crois que malheureusement, c'est le sort de beaucoup de boucliers au rugby. On avait vu des images, je crois. Je sais pas si c'était pas les Toulousains qui avaient été faire du surf avec le Brennus.
Alors c'est quand même typique du rugby, les gars.
C'est devenu une tradition.
Tous les autres sports co, c'est un peu plus, comment dire, ou un peu moins, je sais pas comment il faut dire.
Et en même temps, les autres sports, ils n'ont pas de bouclier.
Ouais, mais il y a un respect du trophée dans les autres sports. Rugby, ils sont bourrés là-dessus.
C'est plus difficile de les faire du surf sur une coupe. C'est pour ça.
Ah, c'est pas faux.
Ouais, avec le bouclier. Notre question, Julien.
Oui, alors le club Athletic Pontacquet, pas mal d'évolutions. Vous avez un clubhouse tout neuf depuis quelques temps, dont vous profitez à l'ancien collège Jean Bouzet de Pontac. Il y a aussi en construction un terrain. La question, elle concerne ce terrain. Où en est-il de leur installation sur le nouveau stade contre le Pump Track? Est-ce qu'une date est déjà prévue? Est-ce que tu peux répondre à cette question, donner peut-être plus de précision aussi sur ce projet?
C'est Vincent Bidot, le président du foot, qui a posé cette question, peut-être.
Du tout. C'est Garcia TS sur Instagram.
Aujourd'hui, on n'a pas la date. Parce qu'aujourd'hui, on dépend de la mise en place de l'éclairage sur le nouveau stade. Et forcément, on dépend que de cette date, en fait. Parce que cette date débloquera le reste.
En fait, pour bien comprendre à Pontac, il y aura 3 stades, dont 2 existants. Le stade Jean Estrade, devant lesquels Pontac Radio a encore ses locaux pour une semaine. Le stade François Méric et le stade de réception avec les tribunes. Et puis un 3e stade sur l'ancien camping de Pontac, qui sera finalement le stade dit de rugby. Et c'est là que vous ferez non seulement vos entraînements, mais aussi vos matchs. Ou les matchs continueront à se faire à Méric?
Non, le terrain d'honneur sera toujours le stade François Mérette. Mmh. Voilà, donc nous, effectivement, le rugby, le Cap Rugby partira sur le nouvel espace Cap de Vielle où il y aura un terrain d'entraînement, plus le stade municipal. Donc nous, le rugby, en fait, on utilisera les 2 stades qu'il y a en ville et le foot se retrouvera ici sur les 2 terrains qui sont à Jean Estrade.
D'accord.
Voilà. Donc ça sera séparé. Mais aujourd'hui, on peut pas dire exactement quand on pourra basculer définitivement là-bas, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la mise en place de l'éclairage. Voilà.
Et le fait que vous soyez champion ne change rien, malheureusement.
Le fait qu'on est champion, en fait, on aurait pu jouer sur ce tableau-là, en fait, voilà. Si tu veux. Mmh. Arriver, cela briser terrible, mais en fait, ça ne changera rien du tout.
Ça marche pas tout le temps.
Voilà.
Je voulais revenir à ce titre, et plus particulièrement à la finale, contre Bénéjac, à Gers. J'ai vu qu'il y avait 1400 personnes, quelque chose comme ça.
Ouais, c'était la folie.
Que le coup d'envoi avait même été retardé pour que tout le monde puisse rentrer dans le stade. Comment on vit ça? Parce que petite histoire personnelle, les quelques fois où, quand on est amateur, quand on a l'habitude de jouer devant 50 personnes, quand on a la chance de jouer dans un stade plein parce que c'est une finale, etc., c'est quelque chose de fantastique à vivre. Comment vous avez-vous vécu ça?
Déjà, nous, je veux dire, nous, avec Jean-Charles et moi, on était invités un petit peu avant le match à y aller, donc au stade avec les présidents de Bénéjac et des dirigeants de GER, voilà, pour un pot d'accueil avec les arbitres. Donc en fait, nous, on a tout vu, on est arrivé, le stade était vide, et on a vu les gens arriver. Et ouais, mon Dieu, ça s'arrête jamais, quoi. En fait, tu ressors la tête du stade, tu vois que la queue, elle est à l'autre bout du parking là-bas. Tu vois le monde, t'es tendu, non, c'est incroyable. En plus, tu joues contre nos rivaux, contre Bénéjac. Donc, on te promet une atmosphère de feu, quoi.
Historiquement, Pontac-Bénéjac, ça aime pas du tout, hein, il faut le dire, sur les terrains.
C'est un derby, quoi. Voilà. Et donc du coup, voilà, ben tu vois le temps passer, le coup d'envoi qui repousse, c'est t'es à l'UCEP en plus, un très joli stade, voilà. Donc merci déjà à eux de l'accueil qu'ils nous ont réservé ce jour-là, parce que c'était le lieu idéal, le temps idéal, on va dire l'équipe idéale. Mais on a gagné, donc je peux me permettre de dire ça maintenant, mais non, c'était. C'était incroyable, franchement.
Bon, on y reviendra un peu plus tard en détail, parce qu'on sent dans ta voix que c'est une journée particulière, et j'aime ce genre d'émotion dans le sport. Il faut absolument garder ça, et donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on va se faire une petite pause musicale avec Amy MacDonald et The Hudson sur Pontac Radio. Pontac Radio, il est l'heure d'attaquer la dernière ligne droite de Pontac Sport, l'émission. On parle champion ce soir avec Laurent Toujas, le président du club athlétique Pontacquet Rugby, champion de Nouvelle-Aquitaine de promotion régionale 2. Merci Laurent d'être parmi nous ce soir. On te retrouve très vite pour une nouvelle phase d'interview. Mais pour l'instant, avec l'équipe, on va essayer de faire en sorte que vous soyez les plus malins devant la machine à café du boulot demain matin.
La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et c'est pas nos chroniqueurs qui diront le contraire. N'est-ce pas ? Pentax Sport, en direct jusqu'à 22h.
Alors, Bastien, quelle est ton info machine à café du soir ?
Alors, pour ce soir, je vais lier sport, actualité et Béarn, puisque cette année, le Béarn fête sa 10e année dans le dispositif de la caravane du Tour de France. En 2015, c'était un véritable pari, clairement, pour l'agence départementale du tourisme 64, de vouloir mettre en avant une destination touristique au sein de la caravane du Tour de France. A noter qu'elle a été copiée depuis. Mais grâce à ça, les drapeaux au fond jaune avec les deux vaches rouges et cornes bleues commencent à rivaliser sérieusement avec les drapeaux bretons. La seule différence, c'est que dans le Béarn, il fait soleil. Trêve de plaisanterie, le Béarn sur le Tour de France en 8 ans a apporté 376 retombées médiatiques équivalentes à 3,8 millions d'euros de contre-valeur publicitaire. Grâce au Tour de France, à sa caravane et à notre ambassadeur Henri IV, notre région est devenue une vraie destination touristique. Amis Béarnais et Bigourdans, cette année vous êtes servis. Les coureurs cyclistes précédés de Henri IV et sa caravane passeront chez nous le jeudi 17 juillet avec un passage par Pontac, Coaraz, Asson pour finir en Bigorre, mais aussi un nouveau passage le samedi 19 juillet avec un départ depuis la capitale humaine Pau, avec un court passage à l'Estel-Bétarame avant de traverser Lourdes par exemple. Une chose est sûre, les caravaniers ambassadeurs du Béarn vous attendent avec impatience et en pleine forme.
Et juste pour préciser qu'il y a quelques années à Pontac, nous avions organisé avec la ADT le plus grand maillot jaune humain béarnais au monde, qui je crois devait être à l'époque homologué, je ne sais pas si ça avait été le cas. Ça date de 2019, plus de 1800 personnes étaient réunies sur le stade François Mérette à Pontac avec l'hélicoptère qui est passé. On avait fait un chouette événement ce jour-là avec une journée très festive à Pontac.
Et on peut préciser que l'animateur cette année de la caravane publicitaire du Béarn, on le connaît un peu.
Et oui, c'est Nick. Ah non, pardon, lui il voulait être conducteur, il l'a pas été. Pardon, excuse-moi.
J'aurais aimé.
Ce sera Bastien.
Bastien, notre Lance Armstrong à nous.
Ouais, super. Non, j'espère vraiment vous voir.
J'espère qu'il est pas dopé. Par là.
Non, moi non.
Ah bon,
non.
Mais Armstrong, non.
Je t'ai dit tout à l'heure que je faisais les férias l'été, pas du sport.
Ah oui.
Dès qu'on dit le mot Lance Armstrong, et Pierre il a les oreilles qui fument.
Ludo, je te laisse présenter ton IMC.
Ouais, on va passer du Béarn à la Belgique une fois, une petite histoire belge, ça vous dit les copains.
Ah oui.
Alors l'info vient du site leparisien.fr. Deux influenceurs belges spécialisés dans les intrusions dans des lieux interdits ont assisté à la finale de la Ligue des Champions sans billet. Ils ont réussi à se cacher dans l'enceinte pendant plus de 24 heures. Je pense que Pierre est sacrément jaloux. Alors,
72 heures même, non ?
27 heures.
27 heures.
Je vais t'expliquer tout ça, Pierre. Sois patient. Les deux jeunes Belges, donc deux TikTokers, les prénoms c'est Neil Remery et Sen Averbeck, excusez-moi pour la prononciation, 20 ans, totalise environ 38 000 followers sur le réseau social chinois. Ces derniers jours, le duo est donc au cœur d'un gros buzz. Et oui, la diffusion d'une vidéo retraçant leur parcours en finale de Ligue des Champions a fait le buzz. Les deux jeunes ont en effet pu assister à ce match sans avoir de ticket, en faisant preuve d'une certaine audace pour rester dans l'enceinte. D'abord, ils ont mis des gilets jaunes et ils ont accédé au stade en se faisant passer pour des réparateurs. Voilà, ils avaient bien préparé leur coup. Il l'avait déjà fait pour la finale de la Coupe de Belgique. Voilà, pour la petite anecdote. Bon, ça avait fait un petit peu moins le buzz, hein, la finale de la Coupe de Belgique.
Ouais, ça coûte un peu moins cher les places, je pense.
Exactement. Donc, ils sont restés 27 heures dans les toilettes de l'Allianz Arena. Donc, ils avaient écrit, ils sont malins, hein, sur les WC hors service, afin de s'assurer que personne ne leur rendrait une visite impromptue. Donc, après cette première étape validée, les Belges ont patienté donc 27 heures. Donc, c'est déjà pas si simple que ça physiquement et mentalement. 27 heures dans un... J'allais dire un shot. Un WC. Imagine la scène, Pierre.
Surtout non, si pour voir ce qu'il y avait à voir. Surtout si t'es supporter de l'Inter.
C'est ça. Donc bon, ils sont restés discrets, silencieux. Ils avaient prévu évidemment un peu de nourriture dans un sac à dos. Et ils ont joué au téléphone pour tuer le temps. Mais ça, dans les WC, on le fait tous. Donc à 17h30, avec un gros mal de dos, ils ont entendu du bruit dans le stade. Donc qui commençait à se remplir. Donc ils sont sortis de leur cachette. Mais il restait une étape. échapper au stadier, celui qui vérifie une dernière fois les billets pour aller à sa place. Donc là aussi, ils avaient tout prévu. Ils avaient examiné d'abord, ils ont regardé quel garde de la sécurité un peu moins tatillon, on va dire. Et ben en fait, ils ont pris énormément de nourriture dans leurs bras, de la bière. Et puis ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas montrer leurs billets puisqu'ils avaient les mêmes prises. Et bien ils ont franchi le dernier barrage et du coup ils ont pu assister à cette finale de Ligue des Champions où les Parisiens, je rappelle, ont gagné 5-0 contre l'Inter Milan. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, de cette histoire?
Je suis très content que le Paris Saint-Germain ait gagné 5-0 à la finale de Ligue des Champions.
Mais en fait, c'est tant le côté exceptionnel qu'ils l'ont fait ou qu'ils l'aient médiatisé sur un réseau social? Parce que tu le fasses et que tu le gardes pour toi, c'est une chose, c'est ta petite fierté, mais que tu le sortes après et que tu fasses un peu comme le gars qui a ramé pour arriver jusqu'à Fort Boyard alors qu'il était en plein hivernage.
Ouais, je pense que ils vont faire le buzz. Ils vont faire le buzz, mais c'est terminé maintenant.
Je pense qu'il y a deux choses, moi. C'est soit un gros coup de com, les gardes du stade sont un petit peu dans le coup. Soit franchement la sécurité c'est une catastrophe.
Ouais non mais c'est sûr. C'est sûr.
Ouais mais c'est une anecdote qui est rigolote maintenant.
Oui.
Maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les stades, ils vont tout vérifier, alors, c'est fini. Mais bon.
Ludo, je suis tout à fait d'accord, c'est une blague de potache. Ouais, hein. Sauf que si à la place des sandwichs dans leur sac à dos ils avaient eu des bombes.
Ouais, ça aurait pas eu la même
c'est
histoire.
C'est pas la même histoire en fait.
Oui bien sûr mais.
Non mais je pense qu'ils doivent être en contact avec.
Heureusement qu'on est tombé sur deux joyaux potaches. C'est juste ce que j'ai envie de dire.
Ouais, tout à fait.
Moi ce soir je vais vous parler sport. Et médias. Vous n'avez pas pu passer à côté des problèmes de droits télé qui touchent le football français, particulièrement la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis de nombreux mois. Eh bien, je vais probablement vous apprendre qu'un conflit du même genre a eu lieu dans les années 50. Le premier match de football diffusé à la télévision française est la finale de Coupe de France entre Nice et Bordeaux le 4 mai 1952. La finale de la Coupe de France est d'ailleurs la seule rencontre qui est diffusée à cette époque. Mais en décembre 54, la Fédération française décide de s'opposer à la retransmission d'autres rencontres. Pour répliquer, les chaînes télé ne donnent plus les résultats de foot. Le conflit est désormais installé. La situation va quelque peu s'apaiser en France deux ans plus tard, le 29 décembre 1956. Juste le temps d'un match Reims-Metz. L'ORTF, qui veut diffuser pour la première fois de l'histoire un match de championnat, décide de payer au stade de Reims la différence entre la recette du soir et la recette habituelle, puisque le stade de Reims estimait qu'ils perdaient de l'argent quand leur match était diffusé à la télé. Mais ce modèle commercial n'a pas tenu et toute l'Europe était touchée par cette crise. Les clubs estiment que les joueurs doivent avoir le même traitement que les stars de cinéma avec le slogan « Pas de rétribution, pas de télévision ». Cette crise va durer en France jusqu'au 4 février 1961, c'est-à-dire quasiment 9 ans. C'est 4 février 61, c'est la date d'accord entre les chaînes de télé et la Fédération française parce que cette dernière cherche des financements. Comme quoi, déjà, à l'époque, c'était déjà une histoire de gros sous. Pierre.
Moi, je vais vous parler d'une émission, puisqu'on parle des champions, je vais vous parler d'une équipe qui est devenue championne de France de Pro D2. Ce week-end, je pense que vous l'avez tous vu passer. Il s'agit de l'équipe de Montauban, qui accède donc au top 14, chose qui ne leur était pas arrivée depuis 15 ans. Vous allez me dire, jusqu'à là, rien d'anormal, tout est normal. Mais l'exploit des Montalbanais est d'autant plus historique, car à la même période de l'année dernière, les Verts et Noirs jouaient un match de barrage pour ne pas descendre en national face à Narbonne, match qui remportait d'un point. Et c'est la première fois cette année qu'une équipe qui se qualifie 6e lors de la dernière journée du championnat de Pro D2 parvient à remporter le titre de champion. Ils ont dû cravacher fort puisque pour ce hisser en finale, ils ont éliminé respectivement Colomiers en quart de finale, Brive en demi, avant de s'imposer contre Grenoble, qui était favori de tous les bookmakers lors de cette finale. Donc là, on peut vraiment parler d'une équipe de champions qui est capable de renverser des montagnes. Et félicitations à eux. Et petit clin d'œil à Baptiste Mouchous, qui est arrière de cette équipe et avec qui j'ai joué pendant de longues années.
Eh bien, merci Pierre. C'est quoi ton info préférée, Julien? Puisque tu es le seul à pas en avoir donné, donc il faut que tu votes.
Honnêtement, c'est ton information, Nico, sur l'histoire finalement aussi des médias. C'est un petit peu ma passion, les médias de manière générale. Et je suis content d'avoir pu remonter au milieu des années 50-60 et d'avoir un petit peu la genèse de ces retransmissions qu'on regarde aujourd'hui de manière totalement désintéressée, limite de comment ça a pu fonctionner et ça fonctionne. Et on se dit quand même que rien n'est arrivé par hasard et rien n'arrive sans rien.
Il n'y a aucune commune mesure avec notre époque actuelle. Puis il faut savoir qu'en le soir du premier match, donc en 52, il y avait 700 000 téléviseurs dans toute la France.
Oui, on parle d'un temps que...
Moins de... plus que 20 ans.
Voilà, non, mais c'est surtout où la télévision n'était pas démocratisée, où à peine la radio commençait à... pour le coup vraiment prendre son essor avec la miniaturisation des postes radio, c'est au milieu des années 50-60. Donc peut-être qu'à la radio c'était retransmis d'ailleurs à cette époque-là les matchs.
Oui, peut-être. En tout cas, on va tout de suite retrouver notre invité Laurent Toujas.
Contact Sport Rugby.
Ouais, j'ai dit peut-être parce que je n'étais pas sûr de ton info, Julien. Le boss de la radio, là, je crois qu'il a, il a essayé de faire mousser son média préféré, mais je suis pas sûr. Laurent Toujas, président du CAP Rugby, champion régional de promotion régionale 2.
C'est
exact,
ça. C'est ça.
Remporté, donc on l'a dit juste avant la musique, et on va y revenir parce que 1400 personnes au stade de Gers devant, j'allais dire l'ennemi juré, on n'en est peut-être pas là quand même, mais l'ennemi héréditaire peut-être, Bénéjac, qui est c'est le PSGOM de la région au rugby.
Ouais, c'est sûr, c'était l'affiche qu'on avait tous un peu dans le coin de la tête. Et plus les tours passaient, et plus nos deux équipes passaient aussi. Et jusqu'au moment fatidique, bam, la finale. Et en plus, bon, la saison avait été un petit peu mouvementée, donc ça avait remis un petit peu d'huile sur le feu, on va dire. Et voilà, mais on était quand même... on avait perdu une finale... 15 jours ou 3 semaines avant, je sais plus, peut-être je me trompe peut-être sur ce délai-là. On avait perdu contre Bedouce en finale du terroir. Et donc ça faisait la deuxième finale perdue. Donc en fait, arrivait une troisième finale contre Bénéjac. Donc là, c'est clair, quoi, c'est interdiction de perdre, quoi. Là, on fait ce qu'on veut, hein, on gagne d'un point. On finit, je sais pas quoi dire d'autre, il fallait gagner, quoi, à tout prix, quoi, c'est tout. Déjà, d'une, il y avait se prouver à nous qu'on pouvait gagner une finale avec ce groupe jeune, avec ce groupe de mecs que l'on suit depuis, moi que je suis depuis 3 ans, quoi, voilà, et puis face à Bénéjac, quoi, il fallait gagner, quoi, c'est tout, quoi. En fait, il y avait tout pour être surexcité, motivé et ne pas perdre, quoi.
Quand tu dis groupe jeune, c'est quoi la moyenne d'âge de ton groupe A?
Bon, à peu près. Moi, je dirais 26 ans.
Ouais, ça reste...
Nous, c'est des gamins.
Enfin, ouais, mais j'ai l'impression que c'est plutôt même âgé par rapport à certains groupes qu'on peut avoir. Des fois, t'as des équipes, ils ont 22, 23 ans de moyenne d'âge, quoi.
Ouais, c'est rare à ce niveau. Oh, il faut toujours quand même un petit peu d'expérience. Surtout au rugby. Et c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de savoir si les jeunes, ils prenaient conscience. Est-ce que t'as des anciens dans l'équipe, dans le groupe?
Ouais, il y a des mecs, par exemple, je pense un pote à moi qui a repris les crampons cette saison. Il avait coupé depuis un petit moment et il est revenu, qui est un très bon gars, un très bon joueur, et il a passé une saison incroyable, tout en sachant que auparavant, dans le passé, il avait passé des saisons plus compliquées. Donc ouais, mais c'est en fait ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, que tu sois jeune. Tu t'en rends pas compte, en fait, quand tu fais ça, en fait. T'es bien, t'es euphorique, t'es content, tu lèves le bouclier, tu bois des bières, tu fais le con. Ça, c'est clair. Tu penses un peu à toi, tes performances. Donc, du coup, t'as celui qui a joué qui est très content, qui a gagné un bouclier. T'as celui qui a moins joué qui est plus frustré que content, on va dire. Mais quand t'es enfin, tu savoures. Tu savoures parce que c'est rare, quoi. Voilà, c'est ça, c'est clair.
Et alors, ce titre, on l'a dit, vous avez été suivi, il y avait beaucoup de monde à la finale. Est-ce que ce titre, il peut rapporter, entre guillemets, au club? Je parle, est-ce que tu penses que cette victoire-là, le fait d'avoir ramené du monde au stade, va vous amener des petits licenciés la saison prochaine? Est-ce que ça va t'amener des dirigeants? C'est un problème qu'on aborde souvent dans cette émission. Le sport amateur... cherche des dirigeants? Est-ce que déjà à Pontac vous en cherchez? Et est-ce que le fait de l'émulation autour de cette équipe, elle va t'amener des nouveaux dirigeants, par exemple des gens qui veulent s'investir dans le club?
Je sais pas, parce que c'est dur, le sport, le bénévolat est dur, Tu vois, comme tout Pierre, il dit l'histoire, il raconte l'histoire de Montauban. J'ai regardé le match et effectivement, la saison d'avant, t'es là, tu luttes pour arracher un maintien. Et l'année d'après, t'es sixième, tu finis champion de France. Bon, voilà, là, c'est du rugby professionnel, mais ça montre quand même que les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Donc aujourd'hui, on a gagné forcément un bouclier. On a un groupe de joueurs qui est conséquent. D'un point de vue bénévole, c'est sûr, c'est compliqué parce qu'il nous en manque. Il nous en manque forcément, mais il y a des clubs partout, il y a beaucoup plus de sport dans les villages. Donc il y a des gens, ils ont un peu plus le choix aujourd'hui d'aller soit au rugby, au hand, au foot, au basket, et j'oublie d'autres sports là. Mais forcément, oui, moi ce que j'espère, parce que je veux y croire, je veux croire que tout ça va nous être bénéfique. J'ai envie de croire que notre école de rugby demain elle va arriver à avoir un peu plus de petits. J'ai envie de croire que notre équipe cadet, minime, junior, elle va encore s'étoffer, que notre groupe senior il va encore se resserrer, qu'il va aller chercher quelque chose de plus. Voilà, une victoire, une montée, un groupe qui grandit et qui s'étoffe. J'ai envie de croire que nos bénévoles, même si la saison elle a été dure, et j'ai essayé toujours durant toute la saison de leur montrer de l'entrain, de leur montrer de la motivation, que s'il fallait aller au combat on allait y aller ensemble, qu'il fallait pas se contenter de quelque chose de bien, il fallait surtout aller chercher la chose d'après, c'est-à-dire encore mieux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, après peut-être que je suis trop exigeant, mais c'est ma façon de voir les choses. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, mais il faut aller chercher toujours quelque chose en plus. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière d'exister. Et aujourd'hui, je pense que tu existes quand tu te montres.
Il faut toujours être exigeant. Tu as raison, je suis assez d'accord avec toi. Le thème de l'émission, c'est les champions. Et je crois que Ludo nous a préparé un petit quiz aux petits oignons sur les champions.
Sortez une copie double, c'est l'interro surprise du lundi. Pontac Sport, le quiz de l'émission.
Alors, c'est l'heure du quiz. Le fonctionnement du quiz est toujours le même. Les participants, donc le présentateur ce soir, c'est Ludo. Les participants, Pierre, Laurent et Bastien. Il va vous poser une question, chacun votre tour. Et à chaque fois, à la fin de la question, vous avez le choix entre répondre en duo, c'est-à-dire avec deux propositions pour un point, en carré avec 4 propositions pour 3 points, ou alors si vous avez la réponse directement, vous répondez en cash pour 5 points. Ludo, c'est à toi.
Allez, je vais commencer par hasard, allez, par Pierre. Pierre, quel joueur détient le record du nombre de titres NBA ? Duo, carré ou cash ?
Duo.
Michael Jordan ou Bill Russell ?
Bill Russell.
Ouais, excellente réponse. Donc Bill Russell avec 11 titres dans les années 70. Michael Jordan a 6 titres, Kobe Bryant 5 et LeBron James 4 par exemple. On enchaîne avec Laurent. Quelle équipe a remporté le plus de titres en Ligue des Champions de handball ? Duo, carré ou cash ?
Cash.
Cash, vas-y.
Barcelone.
C'est une excellente réponse. Barcelone avec 12 titres. Chapeau. PSG a 0 titre, je rappelle, en handball. Bastien.
Oui. Il va se calmer, lui.
Quelle nation détient le plus de médailles d'or en hockey sur glace masculin aux Jeux Olympiques ?
Cash.
Cash, tu l'as ?
Le Canada.
Ouais, bingo, j'avais dit qu'on avait un quiz de champion. Donc le Canada, 13 titres, suivi par URSS Russie. On va les mettre ensemble avec 7 titres.
Allez, après un tour, Laurent et Bastien, 5 points. Pierre, 1 point.
Allez, cette question est donc pour Pierre, Nico. C'est bien ça, hein ?
Oui.
Pierre, on parle foot français. Quelle équipe détient le plus de titres ? Duo, carré ou cash ?
Cash, Paris.
Bonne réponse. PSG, donc 13e titre de champion cette saison, suivi par Saint-Etienne avec 10. L'Olympique de Marseille en est à 9, mais à jamais les premiers.
Toujours.
Fayot avec son pote.
Laurent, quelle équipe de basket masculin français détient le plus de titres de champion de France ?
Cash. Villeurbanne.
Excellente réponse.
C'est une machine.
Exactement. Chaud, lui. Avec 21 titres, Limoges CSP et Lambernais 9 titres.
Combien Limoges, j'ai pas entendu.
Le micro marche mal, Julien.
Moi j'ai 11 sur ma... sur ma fiche, j'ai 11 titres pour Limoges.
Allez, on enchaîne, Bastien. Un petit peu de basket féminin.
Ouf, ouais.
Allez, le club français le plus titré du championnat de France. Duo, carré ou cash ?
Carré.
Carré, je te propose Bourges, Clermont, Valenciennes ou Pontac?
Bourges.
Et c'est une très bonne réponse avec
un titre.
Alors les demoiselles de Clermont, c'est les années 70-80. Elles avaient quand même cumulé 13 titres de championne de France et avaient joué les yeux dans les yeux avec Riga et Ouliana Semenova, 2m20 à l'époque. Grande équipe à Clermont, mais effectivement c'est Bourges qui domine le basket moderne.
Après deux tours, c'est notre invité Laurent qui est en tête avec 10 points devant Bastien, 8 points et Pierre, 6 points.
On enchaîne avec Pierre. On va parler hand masculin.
Donc, PSG.
Quelle est l'équipe française qui détient le plus de titres? Duo, carré ou cash?
De titres de champion de France?
Oui.
Cash. Montpellier.
Bonne réponse. Montpellier avec 14 titres, le PSG n'en a que 12. Laurent, on va parler hand féminin. Et vu que tu es très très fort, hein, je ne sais pas si je te la pose correctement ou pas cette question. Alors, hand féminin, quelle est l'équipe la plus titrée dans l'histoire du hand français? Duo, carré ou cash?
Carré.
Carré, donc il y a Asson, Metz, le Paris Université Club ou Irisari. Il n'est pas tout à fait en France, je vois dans le regard de David une contestation.
Paris?
Eh bien non, c'est Metz, avec 27 titres. Ça, j'avoue que j'ai trouvé l'info, mais je ne savais pas qu'à Metz, le hand féminin était hyper développé.
Mais c'est Brest.
Je crois qu'il y a un énorme écart entre
Metz, 27, le PUC, 5.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Bastien, l'OM reste à jamais la première équipe de foot français à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Mais c'était contre qui? Duo, carré ou cash?
Cash.
Vas-y.
L'Inter de Milan.
Oh, oh, c'est une mauvaise réponse. C'était bien sûr le Milan AC.
Non.
Bien sûr, avec la tête de mon Basilou. Allez, pour mener 1-0 et gagner le premier titre. C'est disqualifiant ça, Nico, comme réponse ou pas?
Mais je suis pas le foot, les gars.
Non, mais on va dire qu'il mérite de perdre, quoi.
Je suis pas le foot.
Du coup, ce serait pas Pierre qui gagne, là?
Est-ce qu'on peut pas faire une petite question supplémentaire?
On en est où,
j'ai une question de rapidité.
Pour l'instant, on a Pierre à 11 points, notre invité Laurent à 10 points et Bastien à 8 points.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Je peux poser une question à chacun ou question de rapidité?
Allez, une question à chacun, on a le temps.
Une question à chacun. Allez, Pierre, quelle est la dernière française à avoir gagné Roland-Garros, duo, carré ou cash?
Cash. C'est pas Marie Pierce.
Ouais, bonne réponse, excellent. En 2000, ouais. Suzanne Lenglen en a gagné 7, mais c'était une autre époque, de 1920 à 1927. Donc ça fait 8. Bien, Nico, je l'ai lu dans ton regard, puisqu'elle n'avait pas gagné celui de 1924. Laurent.
Ouais, elle avait été nulle cette année-là, je m'en rappelle.
Laurent, Alors là, c'est un peu compliqué la question, je suis content que ça tombe sur toi, tu vas comprendre. Quel duo d'équipe a remporté le plus de titres de champion d'Europe de club en rugby? Autrement dit, j'ai deux équipes qui sont à égalité et je te demande de connaître ces deux équipes-là. Hein? Duo, carré ou cash?
Tu peux reposer la question.
Il y a, au niveau européen, il y a deux équipes qui ont le même nombre de titres. En fait, je veux que tu me les cites et je peux te proposer duo, carré ou cash et te donner des duos.
Carré.
Alors, est-ce que c'est le duo Pontac-Bénéjac? Est-ce que c'est le duo Toulon-Toulouse? Est-ce que c'est le duo Leinster-Saracens? Ou est-ce que c'est le duo Toulouse-Leinster?
Toulouse-Leinster.
Ouais, excellente réponse, avec 5 titres chacun. Donc Leinster, c'est l'équipe de Dublin. Voilà. Dernière question pour Bastien.
Ouais. Là, c'est Milan.
Allez, qui est le rugbyman français qui détient le plus de boucliers de Brennus?
Carré.
Carré, donc je te propose Max Médard, Thierry Dussautoir, Yannick Josion ou Clément Pointrenaud. Bien sûr, tout le monde a remarqué que ces quatre joueurs évoluent au
Toulouse.
Exactement.
Je sais pas. Yannick Josion.
Non, il en a 6. Ouais, Thierry Dussautoir 6, Pointrenaud 6, mais c'est Maxime Médard qui en a 7.
Je l'avais pas.
Et pas Vincent, il n'y avait pas Vincent Clerc dans l'histoire aussi?
Ah, je l'ai pas, Vincent Clerc.
Et bien, c'est Pierre qui remporte le quiz. C'est le champion du quiz des champions.
Encore
bravo,
une fois,
Pierre.
Encore une fois.
Bravo, Pierre.
Laurent s'est bien défendu, hein.
Il s'est très bien défendu.
Il nous a fait peur.
Ouais. Franchement, très impressionnant sur les deux premières questions, notamment. Bravo.
Moins à l'aise sur le sport féminin.
Ouais, c'est...
j'avoue.
Bon, bravo Laurent donc, pour cette performance au quiz, mais j'ai surtout envie de te dire merci pour l'émission de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, merci d'avoir partager avec passion. Je pense qu'on a tous autour de la table, et même j'ai reçu quelques petits messages pour me le dire, on a vraiment ressenti ce soir dans l'émission ta passion pour le rugby, mais ta passion pour le groupe, ta passion pour le club. Et ça, c'est très important d'avoir des dirigeants comme ça à la tête de nos clubs. Donc je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. Je pense que tu as fait une excellente émission et que c'est une émission qui était très intéressante à écouter pour nos auditeurs qui pourront bien évidemment la réécouter en podcast sur pontacradio.fr. Il est l'heure de mettre fin à ce dernier numéro de la saison de Pontac Sport. C'était un plaisir de vous retrouver un lundi sur deux à chaque fois. La saison est finie, l'émission est finie, mais la semaine ne fait que commencer sur Pontac Radio. Et vous retrouverez notamment jeudi à 21h la dernière de la saison de l'Esprit Rock. Et à cette occasion, Guillaume reçoit le groupe Samari. Et puis à 23h, vous retrouverez la playlist de l'Esprit Rock. Dimanche à 20h30, DTC spécial. Je me compare souvent aux autres. Comment faire? Il faut arrêter de se comparer aux autres, surtout à moi, sinon vous n'avez aucune chance. Et enfin, tous les lundis soirs cet été, retrouvez les rediffs du meilleur de Pontac Sport, l'émission. Tous nos programmes, je le rappelle, sont à retrouver en podcast sur pontacradio.fr. Pontac Radio, jamais une radio ne nous a offert autant.
Toutes les émissions et les retransmissions de Pontac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur pontacradio.fr. Vous écoutez Pontac Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.